dès 9h sur Radio 1, tous les jours. Béni soit-il.
Béni soit-il, c'est reparti pour 3 heures avec toi jusqu'à midi et quart. Hein. Tu le sais, je t'accompagne jusqu'à l'arrivée de Wallis Glaise pour le journal et la météo. Et entre-temps, il y aura toutes les rubriques de ton émission avec Béni soit l'insolite à 9h45, Béni soit l'humour à 10h45. Et je te le rappelle encore une fois, oui, on passe des sketchs, mais on peut aussi faire un canular téléphonique avec Béni soit le canular. T'es sûr de te faire avoir et en plus, on t'offre le canular par mail. Et puis bien sûr, à 11h45, c'est Béni soit l'amour pour faire une dédicace d'amour et cette semaine spécialement à toutes les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos cousines, nos patronnes. Oui, on peut le faire aussi. N'hésitez pas, ça sera donc à 11h45. Et puis aujourd'hui, c'est jeudi. Le jeudi, c'est la parole sans frontières, sans limites et sans tabou. Et des tabous, malheureusement, on en a connu hein, dans notre histoire. Et malheureusement, hein, pour cette histoire, l'État nous aurait-il menti sur le niveau de toxicité de la radioactivité générée par les essais nucléaires? Est-ce que tu es inquiet par ces archives militaires du 17 juillet 1974 sur le 41e essai nucléaire, le Centaure, dont un nuage serait venu jusqu'à les îles du vent, les îles sous le vent. Bref, on aurait tous été touchés, toute la Polynésie aurait été touchée. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que le gouvernement de Tahiti était-il complice? À croire Gaston Flosse, hein, qui était président à l'époque, il n'était pas au courant, Gaston. Mais non, il aurait bien voulu en savoir plus et il est outré hein, de cette attitude de l'État français. Vous l'avez entendu comme moi, Edouard Fritsch nous a rappelé hier qu'il a été le premier à déclarer que l'on nous avait menti. Il a dit, je ne vais pas répéter ça 10 fois, il demande des comptes. Il demande à M. Macron de faire les comptes. Et justement, ce président Macron, on en parle également sur les réseaux sociaux. Il doit venir le mois prochain à Tahiti et les gens disent mais il faut qu'il annule son séjour puisque ça va péter sinon. Ou alors est-ce qu'il va l'annuler ce séjour? Est-ce qu'il est prêt à répondre à la colère des Polynésiens qui ont été bafoués et trempés par l'État au risque et péril de leur santé? Ça peut être un des sujets d'aujourd'hui bien sûr. Et on parlera d'autres sujets s'il y a des choses qui t'intéressent. L'emploi en priorité pour les Polynésiens. Hein, vous savez, au tribunal et au ministère de la Justice, ils manifestent parce que il y a des choses qui sont pas respectées. Comment on appelle ça? Lorsqu'il y a des gens qui viennent ici à Tahiti, ils doivent rester 2 ans, peut-être renouvelable une deuxième année, mais après ils doivent rentrer chez eux. Et puis il se trouve que il y en a qui veulent rester jusqu'à leur retraite, alors qu'on a des Polynésiens qui pourraient avoir ce poste. Bref, autant de sujets aujourd'hui assez explosifs, merci. 40 43 61 00, tu peux agir dès maintenant. Le standard est ouvert. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? On parlera bien sûr du co-auteur de cette revue toxique qui s'appelle Thomas Status. Il a été interviewé directement par notre rédaction et vous pouvez retrouver cela sur le www.radio1.pf. Radio 1, bonjour.
Salut Béni.
Oui Jean-Paul, comment vas-tu?
Ça va.
Bon, alors ta réaction?
Eh ben moi je voudrais réagir en tant qu'ancien.
En tant qu'ancien. Mureroy. En tant qu'ancien de Mureroy, toi tu étais sur place. Alors lorsque
attends, j'étais sur place moi en 77 jusqu'en 79.
Donc 3 ans.
Bombes qui m'ont pété sur les fesses.
Ouais.
Et on montait la garde auprès de la bombe, on était à 2 mètres de la bombe. Hein.
Et est-ce que vous aviez des tenues de protection? Vous étiez habillé comment?
Non, non, pas du tout.
Pas du tout.
Les tenues de protection n'étaient que données quand si tu rentrais en zone contaminée. Mais si tu es hors zone, non. Et alors, moi, ce que je veux dire par là, c'est que le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que bon, on a beaucoup d'associations qui blablatent, mm-hmm. aussi bien l'Église que les 193 qui n'ont jamais foutu les pieds à Mureux,
mm-hmm.
Qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est qu'à remuer, mais ça bouge pas. Moi, c'est ce que j'avais demandé, c'est qu'il y ait une section médicale qui fasse le tour des atolls,
mm-hmm.
contrôler la santé des Polynésiens,
oui.
et de ramasser des échantillons de sol de tous ces atolls-là pour les faire contrôler, pour savoir vraiment si le sol a été touché par rapport à tous les essais qui ont été faits.
Alors,
et deuxièmement, c'est que c'est bien d'aller avec un sous-marin aller visiter le Titanic. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on mette un sous-marin autour de l'atoll. Mmh. On va être surpris de la poubelle de matériel contaminé qui est autour de l'atoll.
Alors Thomas Statius, hein, qui est co-auteur de cette revue, a dit que l'analyse des documents déclassifiés nous apprend également que les militaires, au cours de cette campagne de 1974, avaient comme procédure d'observer l'évolution des masses d'air à échéance de quelques jours, ce qui semble indiquer qu'ils étaient au courant des risques que courait la population de Tahiti. Toi, en 1977, trois ans plus tard, est-ce que vous aviez les mêmes consignes ?
Nous, on n'était pas au courant.
Vous n'étiez pas au courant ?
On était au courant, en tant que militaire, on était au courant de absolument rien. On faisait notre boulot. Moi, ce que j'ai su, à un certain moment donné,
ouais,
c'est qu'au-dessus de PK-25, 26, 27, c'était interdit d'y aller. Parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient, comme quoi il y avait du cobalt. Et que c'était radioactif à 100%, c'est-à-dire que même avec une combinaison, tu risquais de te faire allumer.
D'accord.
Et là, si tu veux, le problème qu'il y a aussi, et le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qui a été balancé à la mer. À la sortie de Mururoa, dans le bleu, je ne sais pas à quelle profondeur, il y a eu des carcasses de véhicules, des carcasses d'avions, des carcasses d'hélicoptères, il y a eu pas mal de matériel balancé au large. Pour éviter justement de ne pas savoir décontaminer ce matériel-là et puis de s'en débarrasser au plus vite.
Merci
Alors
beaucoup.
Maintenant, si on avait la possibilité d'avoir un sous-marin qui puisse descendre à cette profondeur-là pour aller voir ce qu'il y a, parce que faut pas oublier que quand même on a des pêcheurs polynésiens qui pêchent au large le thon.
Tout à fait.
Et quand on sait ce qui s'est passé au Japon et qu'on a retrouvé du thon contaminé le long des côtes de américaine,
ouais,
on se pose des questions.
Merci beaucoup de ton témoignage. Je rappelle, Jean-Paul était en 1977 sur Mururoa. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, Jean-Paul. Bisous.
Allez,
magique.
Bonne journée à toi.
Ciao, ciao. Bon, on y va. 40 43 61 00, le standard est ouvert. Je pense que ça va bien, ça. Bah oui, c'était dans la programmation en plus. Étienne Dao, tombé pour la France. Souvenir des années 80 sur Radio 1, la première FM de Tahiti. Et puis je vous le rappelle, hein, 70-20, si vous voulez réagir par SMS, directement en MP sur ma page officielle, béni soit-il. Vous écoutez Radio 1. Vous écoutez Radio 1, il est 9h25. Et oui, on est déjà 25 minutes du début de l'émission. Et ça appelle, c'est en train d'écrire. On a des messages qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est la parole sans limite, sans frontières, sans tabou. Jean-Paul nous a appelé comme quasiment tous les jours. Mais lui, il y était à Mururoa en 1977, trois ans après l'essai du Centaure. Alors, les questions qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que l'État nous a menti sur le niveau de toxicité de la radioactivité générée par les essais nucléaires? On a eu le privilège de pouvoir interviewer Thomas Statius. Vous pouvez lire toute l'interview, c'est le co-auteur de cette revue toxique. Et il nous explique des choses. Hein. Ces retombées étaient connues, mais leur étendue et intensité n'avaient pas été vérifiées et examinées de manière indépendante à l'époque. C'est d'ailleurs l'une des découvertes les plus importantes de notre travail, dit-il, à mon sens. Selon nos estimations, toute la population de Tahiti et des îles sous le vent aurait été soumise à une dose supérieure à 1 millisv, ce qui ouvrirait la voie de l'indemnisation à 110 000 personnes qui habitaient à Tahiti et les îles sous le vent. Si toutefois, bien sûr, ils contractaient un cancer radio-induit, ils n'ont rien fait pour mettre les gens à l'abri. Et l'essai n'est d'ailleurs pas évoqué dans la presse de l'époque. Voilà des révélations quand même ça vous met un froid dans le dos. Qu'est-ce que tu en penses de toutes ces choses-là? Est-ce que vous en avez parlé avec vos parents, vos grands-parents, des gens qui étaient là en 1974? Est-ce que vous avez de la famille, des gens qui ont été touchés justement par ces maladies radio-induites? On est là pour en parler aujourd'hui. 40 43 61 00. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été fait lorsque le président de l'époque, Gaston Flosse, dit qu'il n'était pas au courant, que l'État ne l'avait pas informé de la toxicité. Est-ce que vous prenez ça argent comptant? Est-ce que vous dites, bah oui, c'est possible, effectivement. Ou au contraire, comme je le lis sur les réseaux, encore une fois, je suis là pour faire la synthèse de tout ce que j'ai pu lire sur Internet et pour être votre porte-parole, mais je préfère quand c'est vous qui le dites. 40 43 61 00 par SMS au 70-20. Est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression qu'on s'est moqué de nous? Mais au-delà de cela, ça va bien plus loin. Mettons-nous à la place de ces familles. J'ai lu des posts, hein, des commentaires de gens qui disent bon, on en a rien à foutre, on est en 2021 maintenant, il faut tourner cette page. À quoi ça sert d'en parler? Franchement, ça va pas aider le tourisme, ça va faire peur encore plus aux gens qui veulent venir visiter Tahiti. Arrêtons de manger du poisson cru dans ce cas-là, etc. Il y a des gens qui prennent ça vraiment à la légère. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu penses qu'effectivement, ben écoute, c'était en 1974, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse aujourd'hui? Ou au contraire, tu dis, mais attends, le nombre de personnes qui ont perdu la vie, le nombre de personnes qui sont parties avec des maladies. Alors là, ici, on a quelqu'un, par exemple, qui m'écrit, qui me dit, cet article ne m'apprend rien de plus. L'État a reconnu les dégâts, les mensonges, et il doit réparer ni plus ni moins, et qu'on s'occupe de ce monstre de notre océan. Alors, dans notre océan, vous réagissez comment, vous? Radio 1, bonjour.
Eh, bonjour.
Oui, qui est à l'appareil?
C'est Buchin.
Buchin. Oui, Buchin, ta réaction alors à cet événement?
Il faut penser aux familles qui ont été atteintes du cancer par rapport
aux maladies radio-induites.
Voilà, maladie induite. Mm-hmm. Et donc, moi, pour ma part, mon papa, il était là-bas aussi à Mururoa,
ouais.
71 Haretoué.
Ok.
Voilà, donc lui, il n'a pas été atteint de cette maladie-là.
Ok, donc, et pourtant, il était directement à Mururoa en 1974, il y était alors.
Voilà, il était là-bas, il était peintre, hein, il réparait les maisons, il peignait les maisons.
Ouais.
Aujourd'hui, il est toujours vivant, hein, il est en bonne santé. Hein.
Et il n'a jamais eu de problème avec la thyroïde ou du diabète ou quoi que ce soit, des maladies endocriniennes?
Non.
Alors, il faut savoir quand même que d'après les études, ce n'est pas en Polynésie française qu'on a le plus haut niveau de cancer de la thyroïde. Ouais. Ce record, malheureux record, est détenu par la Nouvelle-Calédonie où il n'y a jamais eu d'essai nucléaire. Hein, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut découvrir aujourd'hui dans l'information, hein, de nos collègues, hein, nos confrères de Tahiti Info. Donc voilà, les gens qui hurlent après les essais nucléaires par rapport au cancer de la thyroïde, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le record. Et alors, on est en train de chercher à savoir si ce sont des insecticides ou si c'est peut-être dû au nickel, l'extraction.
C'est plutôt là où il faut reposer, où il faut parler.
Oui.
Insecticides, tout ce qui est pesticides, herbicides, c'est là où ça fait mal, où ça peut tuer beaucoup de gens. Et en même temps, les abeilles aussi, parce que les abeilles, il ne faut pas oublier, c'est ça qui prolifère tout, hein, les fruits et compagnie. Hein.
Bien sûr, on a besoin des abeilles pour notre survie.
Voilà. Donc, je pense que c'est là qu'il faut parler. Hein. Ceux de Mururoa, tout ça, il y a un point où il faut retenir, parce qu'il y a eu plus de 400 essais à peu près. Hein.
Et 193 essais, exactement.
193 essais.
Ouais.
C'est sûr que ça va faire des dégâts. Parce qu'il y a déjà une fissure aussi à Mururoa. Alors, est-ce que dans les années à venir, cette fissure-là va casser? Voilà. Il y a beaucoup de choses que la France doit voir pour la Polynésie. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose. Bon. Et maintenant, voilà. Il faut que l'association qui est ici mette un peu plus, de voir le territoire ici, le président. Et essayer de, voilà, avec l'association, d'aller en France, de voir Macron et de voir un peu qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à les familles déjà qui ont été touchées, qui sont morts par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vraiment ils sont morts par rapport à...
Ah ben ça, de toute façon, ils vont le vérifier. Hein.
Voilà.
On est bien d'accord avec ça. Il faut absolument savoir si c'est dû à une maladie, à un cancer radio-induit.
Maintenant, s'il faut indemniser, la France doit faire son possible pour indemniser. C'est pas ça parce qu'ils ont fait en France.
Ouais, mais il n'y a que 68 personnes qui ont été indemnisées sur toutes les personnes qui auraient été touchées. L'étude nous dit que on devrait normalement commencer à penser à indemniser au moins sur les 110 000 personnes, toutes celles qui ont contracté un cancer depuis 1974, quoi.
Ouais, Benny, tu sais comment ça...
Bah oui, je sais bien, Bucham.
Voilà.
Bichat, merci beaucoup. Voilà. Merci de ton appel.
Ils sont toujours là dans ces domaines-là. Quand c'est la population, ils font traîner les choses.
Merci, Bichat. Il y a du monde qui veut téléphoner. Oui, gros bisous magiques.
Merci.
Ciao. Radio 1, bonjour.
Oui, Yohana, Radio 1. C'est Marcel.
Marcel, comment vas-tu?
Ça va très bien. Alors là, je te signale que je vais te parler en tant que vétéran.
Baisse ta radio complètement, encore une fois, s'il te plaît, Marcel, sinon on ne comprend rien à ce que tu dis. S'il te plaît, mon Marcel.
Voilà, et là, tu m'entends?
Voilà, c'est très bien. Alors, en tant que vétéran, qu'est-ce que tu as à nous raconter, toi?
Voilà, je vais te dire. Bon, je suis Mataille à Pau, j'ai 84 ans.
Ouais.
J'ai fait le Foch et le Clémenceau en 1966 et 68 en tant que plongeur électronicien à bord des hélicoptères chargés de récupérer les têtes matras.
Oui.
Et ensuite, quand je suis revenu en Polynésie avec mon épouse, j'ai fait pratiquement 27 ans au CEA, Fangatofa, Moruroa, et j'ai même fait un an à Ao en 76.
Alors, est-ce que tu étais à Mururoa en 74, toi?
Mais bien sûr.
Quand il y a eu le tir de Centaure, est-ce que tu étais sur place?
Mais j'étais tout le temps.
D'accord.
Et là, au début, dans les années 70 ou autre, on logeait sur des bateaux-bases. On quittait l'atoll de Moruroa la veille, lorsqu'on passait ce qu'on appelait le Rubicon.
Oui.
Et pose-moi les questions que tu veux, parce que j'en ai tellement.
Oui, alors, ben justement...
Par exemple, en 66, j'ai récupéré le corps du pilote de l'étendard qui s'est crashé au large de la baie Phaéton. À la veille de notre départ sur Muru.
Oui, mais Marcel, si tu veux bien, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Cet essai de 1974, le Centaure, est-ce que c'est vrai que les militaires n'étaient pas au courant, on ne vous informait pas des risques qu'il y pouvait y avoir sur l'île de Tahiti jusqu'aux îles du Vent?
Alors, je vais te dire.
Ouais.
Dans ces années-là, on ne faisait le tir que lorsque la météo... Il y avait un cône de vent qui partait vers les Gambiers. Voilà. Ce qui s'est passé, très certainement...
C'est que le vent a tourné,
on n'aurait pas dû tirer. Et on a certainement dû tirer, alors que le cône n'était pas favorable. Le cône, c'est pourquoi il était favorable. Parce que les vents radioactifs, une fois l'explosion, ils partaient au large de Mangareva et tout ça. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on a un petit garçon, c'était l'enfant d'un employé, un chinois de Mangareva, et il était, lui, on l'a baptisé Canopus, le jour de Canopus. Et c'était le ministre des armées, Mesmer, qui était son parrain. Concernant les annonces,
oui.
L'équipage et autres ne connaissaient rien du tout. Il n'y avait que la météo et les services aériens pour faire décoller les étendards, les alizés, et nous, aux hélicoptères, pour aller récupérer la tête matra qui ensuite était récupérée avec un chalut, déposée sur les sites de Moruroa, Fangatofa et expédiée sur Ao, et saponnée le KC-135 via Pointe-à-Pitre et la métropole. Le survol des États-Unis était interdit à la France.
Mais tu parlais tout à l'heure de nuages radioactifs. Vous étiez au courant qu'il y avait de la radioactivité qui pouvait se déplacer comme ça dans l'air?
Oui. Quand dans le sens du nuage.
D'accord, mais
on nous a pas dit que le vent s'est inversé.
Ok, on n'a informé personne que ce nuage s'était déplacé vers Tahiti, non. Alors qu'il y a eu des documents.
Absolument pas. Moi, en toute sincérité, non.
Et est-ce
comment on appelle ça, dans l'aéronaval, j'étais aux hélicos, les 4 années, là, en 60, on a tiré en 66 et en 68. Mmh. Ensuite, je suis arrivé à Tahiti le 10 avril, j'étais embauché au CEA, contrat local, le 21 avril, et 3 semaines après, je partais sur Muru, sur les bateaux-bases.
Et est-ce que toi, dans tes connaissances, ou toi-même, tu as eu des séquelles de maladies radio-induites?
Personnellement, non.
D'accord, pas de problème de thyroïde.
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que il y a 5 ans, j'ai eu des coliques néphrétiques,
ouais.
Et le médecin des urgences de Gardella me dit, tiens, Marcel, tu iras passer une échographie. Et là, on m'a trouvé une boule à côté de l'estomac, une boule d'une grosseur d'un abricot.
Oh là là.
J'ai été opéré en 2015 à Paufaille par Massimo, le chirurgien.
Oui.
On m'a retiré cette boule et ensuite on a fait la biopsie. La biopsie est négative, donc pas, rien du tout.
Très bien.
Par contre, à titre de sécurité,
oui.
Le médecin et la CPS en même temps. Hein,
ouais, tu me l'avais raconté ça, Marcel, on te demande d'y aller tous les ans. Hein.
Voilà, on m'a demandé
je me rappelle.
À l'époque d'y aller tous les 6 mois.
Ah, tous les 6 mois.
Oui, oui. Mais il y a un an ou 2 ans, le médecin militaire qui, pour ceux qui veulent, passe la visite annuelle, m'a dit, mais ils sont fous.
Ben oui, parce qu'on te met devant des radiations, là.
Oui, ils sont fous, ils m'ont dit, tu vas aller là, demander à ce que tu passes tous les ans, parce que chaque fois que tu passes un scanner, quel que soit le malade ou autre,
oui.
Tu ramasses 5 millisieverts dans les gencives. Donc tu ramasses 5 fois plus que ce qui est prévu dans l'indemnisation.
Oui, exactement.
Et de madame... tais-toi, oui, 1 millisievert, ok. Je ne sais pas si les gens le savent, ça, mais enfin, je leur dis.
Ouais.
Un scanner, 5 millisievert.
Merci voilà. Beaucoup, Marcel, d'avoir pensé
mais
à m'appeler.
Moi, j'ai la chance. Par contre, moi, ce qui me fait le plus peur, pas pour moi,
ouais.
C'est que j'ai une fille hein, qui a 40 et des poussières d'années. Elle est suivie pour la thyroïde. Elle n'a pas le cancer, la thyroïde, elle est suivie. C'est ce que j'ai fait, et j'ai peur, c'est que pour nous, les générations futures, il y ait des problèmes de thyroïde ou autre, des maladies induites, c'est ça.
Ben oui. Merci voilà. Beaucoup, Marcel, mais de ton témoignage.
Je peux te dire que les 700 ou 800 travailleurs du CEA, hein, tahitiens, et la quinzaine de métropolitains qui étaient comme moi au statut... polynésien, local.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui sont morts, mais je ne peux pas te dire pourquoi.
Merci encore une fois, Marcel. C'est vraiment voilà. Très pertinent de t'entendre. Je te souhaite une belle journée, Marcel.
Voilà, mais j'accuse toutes les associations, Moreau Tataou, la 193 et l'État Marie, qui est une association montée par un ancien du CEA.
Ouais.
Hein, ils font du blabla, mais pendant toute la présence du CEP, ils se sont bien remplis la gorge de l'argent des travailleurs en miroir, que ce soit les catholiques ou les protestants, avec ce qu'ils appellent le nez. Là, ils ne disaient rien. Et ça leur a permis de construire à plus de 200 millions les temples de Paufaille et autres. Voilà ce que j'avais à dire aussi.
Bon, ben Marcel, allez, ça c'est
je
entendu.
Un bon week-end.
À toi aussi. Hein,
et protège-toi. Hein.
Pareillement pour toi, ta petite famille, Marcel, du côté de la presqu'île.
Okay.
Gros bisous.
Merci
magique.
Beaucoup, nana.
Je t'en prie. Oh là 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 là, Marcel vient de mettre le doigt peut-être sur quelque chose qui va vous faire bouger aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur Radio 1, la première FM de Tahiti. Béni soit-il, l'émission qui fait le buzz tous les matins à Tahiti, votre émission préférée, vous propose aujourd'hui de parler de ce magazine Toxique, ce livre qui était sorti. Et nous avons déjà eu pas mal de témoignages et surtout des témoignages de gens qui étaient à l'époque à Mururoa. Ça, c'est intéressant d'entendre ça en début de cette émission. Et puis, on a Marcel qui a terminé quand même par quelque chose d'assez fort en disant j'accuse. J'accuse les associations, j'accuse les gens qui sont en train de manifester par rapport à ce qui s'est passé à Mururoa parce que vous étiez bien content de l'argent, de la manne du CEP. J'aimerais mettre un bémol là-dessus, mon cher Marcel. À l'époque, imagine qu'aujourd'hui, on ne savait pas des effets, on ne savait pas la gravité de ces effets. Donc, à l'époque, on peut quand même pardonner le fait que, voilà, oui, effectivement, il y avait une manne, mais c'était un petit peu normal que les gens en profitent, puisque ça faisait partie du deal. Je rappelle quand même qu'on avait, on nous avait demandé nos îles, justement pour faire ces essais. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tout cas, on a Rhodes au téléphone. Bonjour Rhodes, comment vas-tu?
Bonjour tout le monde, je vais bien, je vais bien.
Alors toi, tu veux réagir également à ce livre, oui. Toxique. Lorsque c'est sorti dans les nouvelles, ça a été quoi ta première réaction? T'avais l'air étonné ou on savait déjà les choses?
Pas du tout étonné. En fait, il ne faisait que dire la vérité, parce que c'est une chose qui a toujours été cachée. Faut pas oublier une chose, que les premiers essais nucléaires ont eu lieu au Sahara.
Oui, tout à fait.
Ça, faut pas l'oublier.
Oui.
Donc, à l'époque, le grand Charles, il voulait que la France monte sa puissance
nucléaire.
Atomique, on va dire. Donc, il n'hésitait devant rien. La raison d'État voulait qu'il fallait coûte que coûte que ces essais nucléaires aient lieu. Donc, le Sahara, c'était plus la peine, avec l'indépendance. Donc, il s'est basé sur la Polynésie. Il s'est basé sur la Polynésie. Mmh. Et de toute façon, il fallait coûte que ces essais aient lieu, peu importe les conséquences. Les conséquences, ils savaient les conséquences, parce que, étant donné que tous les scientifiques de l'époque le tenaient au courant jour après jour, ils savaient ce qui allait se passer. Mais non, la raison d'État voulait que. Et c'est pour ça que les robinets des milliards ont été ouverts et l'argent coulait à flot. On peut pas l'oublier, ça, il y en a qui sont enrichis.
Bien sûr.
Le CA, le CE a une carte blanche pour, voilà, pour investir. Il y en a qui se sont enrichis au passage.
Oui, tout à fait.
D'accord ? Il y en a beaucoup qui sont enrichis, des entreprises qui sont enrichies. Passant des contrats avec l'État, avec le CEA. Ça, faut pas l'oublier, ça.
Oui.
Là, vous avez eu ma cité tout à l'heure, c'est mon oncle.
Oui.
Donc, je peux vous dire que lui, il a été au premier jour des essais atmosphériques.
Oui.
Donc, il connaît le problème. Et ça, la vérité nous a toujours été cachée.
Oui, mais alors, à ce moment-là, justement, par rapport à ce qu'a dit Marcel, hein, tu m'as entendu en réouvrant l'antenne, de dire on accuse les gens de s'être servi à l'époque. Est-ce qu'on peut vraiment les accuser un peu? Dans ce cas-là, tout le monde est coupable, alors. Tout le monde, alors que tout le monde n'était pas au courant de la gravité. Après, faut pas être hypocrite, on sait très bien que c'était pas une bombe atomique, c'est pas fait pour arroser les plantes, mais
on
n'imaginait pas que c'était à ce point.
Qu'est-ce qu'on disait aux gens à l'époque ?
C'était pas grave.
Mais ne vous en faites pas, c'est des bombes propres, il n'y aura pas de déchets nucléaires. C'est ce qu'on leur disait. Et les gens, ils font ces têtes baissées, ils allaient bosser pour le CEA, ils allaient bosser pour le CP sur les sites à Montreux, Fondato et compagnie.
Avec des super salaires.
En fait, on leur a fait miroiter une carotte sans leur dire quelles étaient les conséquences après, si la carotte était toxique ou pas. Et là, le problème. Donc c'est vrai, tout le monde en a profité. Et c'est pas la CPS qui pourra dire le contraire non plus. Hein, l'argent coulait à flot. Donc les caisses de la CPS étaient pleines. C'était plein à craquer. Mmh. Énormément de monde des îles allait bosser à Moruro. Moi j'étais à Moruro dans les années où la bombe a explosé, non pas atmosphériquement, mais souterrain. Mmh. J'y étais pendant un an en tant que militaire.
Ouais.
Et c'était vrai que quand il y avait des bombes qui pétaient, des bombes soudaines qui pétaient, allez, c'était homard, c'était caviar et compagnie, et huîtres et compagnie.
Waouh! Est-ce que. Est-ce que toi aussi, parce que j'ai un militaire qui m'a appelé tout à l'heure pendant la musique, il me disait qu'on vous donnait un stylo pour pouvoir justement voir. Alors il y avait une lumière rouge ou une lumière verte pour vous dire si vous n'étiez pas dans une zone avec un niveau de comment on avait ça?
De contamination.
De contamination trop élevée. Est-ce que tu te rappelles de ça, toi?
Non, mais j'ai jamais eu ça, moi. Par contre, on allait se faire tester à l'infirmerie, effectivement. Par contre, ce qu'on nous disait quand on allait à Mourouin, on dit surtout pas buvez de l'eau de coco, surtout pas ne manger de poisson.
Ne pas plonger non plus. Ne pas les baigner dans l'eau.
Il y avait un club de plongée. Il y avait un club de Minsef. Il y avait un club de. Il y avait tout ce qu'il fallait.
Ah, mais c'était le Club Med, alors.
Ah, c'était le Club Med, effectivement.
C'est vrai.
Mais quand tu allais à Mourouin, tu touchais à l'époque. Le salaire métropolitain multiplié par 2,304 ou 2,08, un peu comme ça.
Oh mon Mais Dieu.
Si tu te faisais, en tant que militaire, en tant que fonctionnaire, tu faisais des couillons, non?
Ouais. Alors.
Mais ce que je veux dire, pour en revenir à toxique, en fait, s'il n'y avait pas eu ce dérapage en 1974,
on n'en aurait jamais parlé.
Si les gens-là qui ont enquêté n'étaient pas allés enquêter plus en profondeur, jamais on aurait su ça parce que ça nous a toujours été caché.
Ouais.
Il y en a un qui disait, oui, mais la bombe, c'est un mal pour un bien. Ok, c'est peut-être un mal pour un bien. Et maintenant, avec ce qu'on sait, c'est plus un autre chose, quoi.
Il fallait. Ouais, on n'a pas évalué la hauteur du mal par rapport au bien, justement.
Non. C'est maintenant qu'on s'en rend compte avec la recherche et tous les scientifiques.
Et comment tu réagis lorsque tu entends le président Gaston Flos, qui avait relancé les essais avec Jacques Chirac, dire qu'il n'était pas au courant de la toxicité?
Mais si, il était au courant, il faisait partie de l'élite du RPR, de l'époque fondateur du RPR, il savait tout ça, mais il le savait tout ça. Il faut qu'il arrête aussi, il faut que tout le monde arrête avec ça. Hein? Ouais. La vérité maintenant, elle va se savoir petit à petit, on va sortir les squelettes du grenier, petit à petit, on va savoir maintenant.
J'ai un auditeur qui m'écrit également qui dit « J'étais marin en Nouvelle-Calédonie en 1971. Oui. Certainement que l'armée redoutait que des nuages pouvaient voyager même jusqu'en Nouvelle-Calédonie avec la pluie, les vaches mangeaient de l'herbe, de lait. » Il dit « Lorsque je me rendais tous les matins à la ferme de Saint-Louis, une ferme que je connais, j'allais chercher mon milkshake là-bas quand on passait par là-bas. » Il disait « Pour collecter du lait qui était ensuite expédié en métropole pour faire des contrôles. »
Donc, oui,
aujourd'hui, on nous dit que c'est la Nouvelle-Calédonie qui a le record de cancer de la thyroïde. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que peut-être les essais nucléaires ont pu endommager aussi la Nouvelle-Calédonie ?
Je ne sais pas, ça me paraît un petit peu... Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais la Calédonie est un peu loin de la Polynésie. Bon, la Polynésie, c'est sûr, en 74, il y a eu 120 000 personnes qui ont été contaminées. Ça, c'est sûr et certain. Bon, maintenant, la Calédonie, je ne sais pas.
C'est quand même loin.
Je ne veux pas en parler, je n'en sais rien.
D'accord.
Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Mais en tout cas, il faisait quand même attention à l'époque, peut-être parce que c'était un autre territoire d'outre-mer, et il fallait envoyer des collectes de lait pour pouvoir le faire contrôler. Merci beaucoup de ton témoignage.
Il n'y a pas de souci, mais bon, de toute façon, ton émission, et ça ne suffira pas une heure et demie pour traiter ce sujet.
Bien sûr.
C'est un sujet qui est assez chaud, brûlant. Alors, qui a fait réagir énormément de monde.
Ouais. Mais tu sais que
surtout avec ce qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Bien sûr. Mais l'émission, béni soit-il, c'est parce qu'on entend des experts, on entend des politiciens, on entend des journalistes, on entend des choses. Moi, ce que je veux faire, c'est de laisser la parole justement à toi, un citoyen, oui. un autre, des gens qui ont du vécu, qui ont des expériences comme Marcel. Tu parlais tout à l'heure de Marcel, oui. Jean-Paul. C'est, le but, c'est d'avoir une autre écoute. Tu vois, faire parler d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de venin qui découle.
Oui,
et
oui,
on n'a
oui,
pas
oui.
cette modération. Et moi, j'essaie juste de modérer un petit peu vos propos. Et je te remercie beaucoup de m'écouter, d'avoir appelé Radio 1 aujourd'hui.
Oui, pas de souci. Merci encore de m'avoir laissé parler.
Avec grand plaisir. Au revoir, Rod.
Allez, au revoir.
Bye bye. 40 43 61 00. Vous l'avez compris, on est avec vous encore hein, pendant pas mal de temps. Vous allez pouvoir réagir. Alors, il y a des réactions, bien sûr, également sur ma page Facebook. C'est normal. Et par rapport à Gaston Floss, j'ai quelqu'un qui m'a écrit des marquises. On va lire dans quelques instants son message. Mais d'abord, on a quelqu'un au téléphone. Radio 1, bonjour.
Bonjour, Béni. Ça va ?
Oui, il faut baisser ta radio, s'il te plaît.
Ça y est, on la coupe complètement.
Complètement. Qui est à l'appareil ?
Alors, Natoua, j'ai une anecdote intéressante à te raconter qui va bien meubler ton émission.
J'adore ça, vas-y, t'es en direct.
Alors, il y a dans une autre vie, je m'occupais de journalisme.
Oh, les tout papas.
voilà. Et alors, on a organisé un débat en direct sur les essais nucléaires. Et d'accord. À l'époque, le responsable des essais nucléaires. Pour la France, c'est un musée qui s'appelait De la Gravière.
Oui, ben je me rappelle très bien le monsieur De la Gravière. Oui, tout
très,
à fait.
Très, très gentleman, un monsieur apparemment bien sous tout rapport.
Oui.
Et donc, on a appelé ce monsieur en lui disant, voilà, on a ce débat qui va être organisé en direct, est-ce que vous voulez venir ? Et il nous a dit, ah non, alors, j'ai dit, écoutez, réfléchissez un peu, parce que si vous venez pas, on va pouvoir raconter plein de trucs et il n'y aura pas de contradiction. Et vous pourrez pas vous défendre et
contre
à mon avis, vous allez en prendre plein la figure. Et finalement, le gars me dit, écoute, d'accord, pas de problème, mais je voudrais qu'on prépare quand même un peu ce que tu peux venir nous voir et tout. Donc je suis là avec une équipe, tu vas voir, je vais rapidement au but du sujet.
Ouais.
Et on est allé dans le bureau de l'amiral.
Oh.
Downing. Oui.
Ouais,
on a été reçu par monsieur de la Gravière, on était trois. Et, le gars, je l'ai, disons, décontracté en lui disant, tu sais, moi je suis un enfant de la bombe, j'ai de la famille qui a travaillé à Moulois, on n'est pas à compte sur le principe et tout, donc on peut se parler directement. Bref, pendant la conversation, le gars me dit, vous enregistrez pas là. J'ai dit non, pas du tout. Et quand on dit pas ça, quand on dit ça à un journaliste, bien sûr qu'il enregistre.
Bien sûr,
et le gars m'a dit deux fois, si on vous disait la vérité, vous grimperiez au rideau. Alors j'ai dit, monsieur, ça veut dire quoi, grimper au rideau? Alors il me dit, mais vous savez pas ce que ça veut dire? Je dis, ben non, dites-le-moi. Il dit, ben vous seriez terrorisé si on vous disait la vérité. Bref, on a arrêté l'entretien, et le jour du débat, il était là, et bien entendu, on a passé ce passage sans le prévenir.
Oh mon Dieu!
Et le gars, je crois qu'il avait fait une crise cardiaque. Mais tout ça pour dire que la vérité...
Elle est connue depuis très longtemps.
Elle est connue depuis très longtemps. Tout le monde est complice. Toutes les personnes qui étaient en responsabilité dans notre pays... Tous les politiques, il n'y en a pas un qui peut te dire, droit dans les yeux, je ne savais pas. Tout le monde savait, tous les élus savaient. Donc aujourd'hui, on a l'impression de découvrir quelque chose qui était vraiment connu. J'ai une autre anecdote qui fait deux minutes, mais alors encore plus extraordinaire.
Alors attends, ne quitte pas, juste deux petites secondes. Oh, tu sais très très bien que je me régale moi avec ce genre d'anecdote. On a des impératifs. Oui.
J'en ai une autre, tout aussi croustillante.
Oui.
À l'époque, le commissaire, je crois qu'il s'appelait Cousran ou un truc comme ça. Donc au petit déjeuner, on était une bande de gamins, on était invités à dormir là-bas. Mm-hmm. Et c'était ce fameux 14 juillet après l'explosion de Centaure.
D'accord.
Et le gars parlait, on entendait tout, on était des gamins, mais on avait nos oreilles qui traînaient. Et il disait, oui, bah, le nuage est passé, on sait, à la presqu'île, il va falloir flinguer toutes les vaches.
Oh mon Dieu.
Non, sérieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le nuage est passé, parce que c'est à Travao qu'il y a toutes les exploitations laitières. Et les troupeaux ont dû être... Alors je ne sais pas s'ils ont été malades ou s'ils ont été nasillés. Mais on a eu de très belles vaches françaises qui sont arrivées quelques temps après de France. C'est authentique, hein, c'est des vraies histoires, tout ça.
Mais alors, comment tu expliques qu'il a fallu attendre tant d'années et qu'il ait fallu qu'il y ait des gens qui fassent cette enquête pour qu'on puisse en parler autant aujourd'hui, maintenant?
C'est toute l'utilité des journalistes. Les gens sont pas très favorables aux journalistes en ce moment dans l'opinion publique, mais il y a quand même de vrais journalistes qui font de vraies investigations. Ceux-là, ils prennent des risques, hein. Ils prennent des risques pour leur carrière, parce que les journaux, les radios et les télévisions appartiennent à des gens qui sont en rapport avec le pouvoir. Mais c'est grâce à eux, comme cette fois-ci d'ailleurs, qu'on arrive à connaître la vérité. Mais c'était à l'époque la raison d'État. Quand on critiquait les essais nucléaires, ben, on n'avait pas de travail, on était classé comme furieux indépendantistes, et puis on nous le faisait payer. C'était comme ça. Maintenant, le fin fond du problème... Ce qui est dramatique, c'est qu'à la lumière du rapport dont tu parles, on peut dire sans problème que nous sommes tous des enfants de la bombe. Toi aussi, Benny.
Bien
nous
sûr.
Sommes tous des enfants de la bombe. Et ça, c'est un peu dramatique d'être les enfants d'une monstruosité qui sert à détruire l'humanité. C'est un peu monstrueux. Et on peut dire ça sans être indépendantiste, et on peut dire ça sans être contre l'État. C'est simplement la vérité.
Tu sais, on me l'a rappelé hier, on m'a dit, tu sais, en 1974, tu mangeais du fafarou comme ça, là. Tu adorais ça, le fafarou. J'étais trop petit, peut-être, pour me rendre compte de l'odeur. Mais en tout cas, lorsqu'on m'a dit ça, je dis, mais tu te rends compte un petit peu. Effectivement, quand tu dis qu'on est tous des enfants de la bombe, quelque part. Merci beaucoup de ton appel, en tout cas.
À bientôt.
À très bientôt.
Ensuite, ton émission, t'es le meilleur, Benny. Salut.
C'est gentil, merci.
Salut.
Ciao. Oh non, il n'y a pas de meilleur ici. Les meilleurs, c'est vous, grâce à vos anecdotes. Merci beaucoup. 40 43 61 00, mais également en MP directement sur ma page officielle, béni soit-il. On a Jessica qui m'écrit: Karouan Noui, honteux de la part de Monsieur Floss, qui s'exprime en disant qu'il ne savait pas que c'était pas aussi néfaste que ça, pas aussi toxique. Fritsch, comme tous les autres, était au courant de la magouille française, tous des corrompus. Voilà ce qu'on écrit, attention, hein. Ce que vous écrivez reste bien sûr dans nos archives. Oscar seul a toujours dit haut et fort la vérité. Que M. Macron vienne en Polynésie, ça changera quoi? Qu'il règle d'abord ce qui se passe chez lui en métropole. Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent de cette venue d'Emmanuel Macron le mois prochain. Est-ce qu'effectivement il sera bienvenu? C'est ça, là. Il y a des questions qui se posent. Les gens disent est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et surtout, il y a des gens qui sont contre ce livre toxique, en disant que ça va pas nous aider dans la situation où nous sommes aujourd'hui, dans les relations justement État et pays. Comment tu réagis, toi, par rapport à cette vision des choses? Et puis effectivement, on nous l'a dit plusieurs fois, tout le monde était au courant. Alors pourquoi nous dire qu'on ne savait pas? Pourquoi se cacher derrière ça? On a nos différents députés, que ce soit Maïna Sage, nos sénateurs, que ce soit Teva Rofritsch, Léna Tetouanoui, qui sont tombés de leur chaise. On le sent bien dans leur courrier, dans leurs lettres. On a Moëtei Brodersson qui n'a pas mâché ses mots au Premier ministre, à l'Assemblée. Ça veut bien dire que ce qui a été mis dans ce livre, sinon il ne se serait pas exprimé comme ça, c'est qu'il y a du solide derrière. Il y a des choses, il y a des papiers, il y a des traces de quelque chose. Comment on a pu comme ça cacher aussi longtemps cette vérité? Et encore une fois, oui, on en a certainement tous profité, directement ou indirectement. Il y a eu cette manne financière. Est-ce qu'on est tous coupables? Est-ce qu'on est tous coupables? En tout cas, si vous avez souffert, vous, de la perte de quelqu'un à cause de maladies radio-induites, vous pouvez également témoigner, parce que je pense qu'à la fin de la course, C'est ça le plus important, c'est de pouvoir indemniser tous ces gens qui ont souffert, qui ont perdu des êtres proches et peut-être qui ont aujourd'hui, encore une fois, des traitements très très lourds à cause de ça. C'est le sujet d'aujourd'hui. On a un autre sujet également hein, qui fait beaucoup parler également, c'est les postes en priorité pour les Polynésiens. On l'a vu, hein, il y a eu des grèves au tribunal et au ministère de la Justice. Si vous avez envie de venir sur ce sujet également, n'hésitez pas. Est-ce que vous trouvez normal qu'à compétence égale, eh bien, on doit toujours prioriser l'emploi aux Polynésiens? Ça peut être un sujet également que tu peux mettre sur la table, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce livre toxique. On se retrouve bien sûr, comme vous le savez, dans quelques instants, ça sera 10h10 hein, tous les jours, avec Anissa Mbida, on parlera de la technologie, le salon nautique qui nous montre des technologies, des voitures autonomes adaptées aux bateaux. Ça sera avec Anissa Mbida sur Radio 1.
Béni soit-il avec Fais-nous Insectes.
Et nous avons Roland au téléphone. Bonjour Roland.
Oui, bonjour, bonjour.
Comment vas-tu?
Oh, très bien.
Très bien. Alors toi, tu veux réagir, hein. Tu es notre popanésien préféré, comme tu aimes te présenter. comment tu réagis, toi, à ce livre qui est sorti, là, Toxique?
Je réagis plutôt positivement, parce qu'en fait, quand ils sont en train de mettre à jour, en fait, clairement, tout ce que on se doutait déjà, tout ce qu'on savait déjà, qu'on nous cachait.
Ouais.
Pourquoi on nous cachait? La raison d'État, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la raison d'État. Et le grand chat, il était très à cheval là-dessus. Pour en revenir un petit peu aux milliards qui ont été déversés sur le territoire pendant une trentaine, quarantaine d'années, en fin de compte, c'était pour, c'était pour garder la paix sociale. Non seulement ça, mais c'était aussi pour que les derniers réticents contre la bombe, les essais nucléaires, ferment leur bouche. Voilà, c'était un moyen pour museler un peu le peuple. C'était un peu ça aussi.
Ouais, d'accord.
Ben oui, évidemment. Mais même De Gaulle, à l'époque, il disait que si les Polynésiens ne sont pas d'accord à ce que les essais se passent dans le Pacifique, en Polynésie, il serait susceptible de placer la Polynésie sous gouvernance militaire.
Ah.
Mais c'est grave, ça. Ça veut dire quoi? À partir du moment où c'est une gouvernance militaire, les Polynésiens fermaient la gueule, point barre. Il en est même arrivé jusque-là. Bon, heureusement qu'il n'a pas fait, mais bon. Voilà comment était le grand Charles de l'époque. Il fallait que la France rayonne dans le monde avec sa bombe atomique, qu'elle soit une puissance atomique coûte que coûte, peu importe les conséquences. Les conséquences, on les voit maintenant.
Ouais. Après, attention, il y a un auditeur qui voudrait modérer là, Philippe. Il nous écrit, il dit: bonjour Béni, on ne peut pas attribuer tous les cancers aux essais nucléaires. Il faut voir quand même l'hygiène de vie qu'on a en Polynésie, la cigarette, l'alcool, le sucre, etc., etc. Donc c'est certain qu'on n'est pas en train de dire que ça y est là. Maintenant, toutes les maladies viennent de ces essais nucléaires. Mais
on peut pas dire ça. C'est comme si on disait tout vient du Covid.
Voilà, on est bien d'accord.
On a une hémorroïde, c'est le Covid. On a un machin, c'est le Covid. Non, faut arrêter.
Alors par contre, quand on a des choses après le vaccin, c'est à cause de la comorbidité, c'est à cause des maladies.
C'est vrai qu'en Polynésie, il y a beaucoup de maladies. C'est vrai que la thyroïde tire son épingle du jeu. Ouais. Et une maladie de la thyroïde, pour l'instant, il y en a beaucoup en Polynésie. Et ça fait venir que des effets nucléaires,
ouais,
de la bombe. Bon, pour le reste, bon, c'est des cancers normaux. On peut rien dire là-dessus. Des cancers normaux. Malheureusement, on est tous inégaux devant la santé aussi.
Ben oui. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu penses qu'avec le livre Toxique, on va pouvoir, parce que ça c'est l'espérance maintenant de toutes ces associations qu'on connaît bien, dont on entend parler, est-ce que tu crois qu'on peut espérer être indemnisé, ou en tout cas sur les 110 000 personnes, celles qui ont eu des maladies radio-induites, est-ce que tu penses que ça peut faire avancer ce dossier-là, alors qu'on a cette loi justement qui a été mise en place pour diminuer au maximum? Il n'y a que 68 personnes qui ont été indemnisées jusqu'à ce jour.
Ce qui n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, on est bien d'accord.
Donc, pour la raison d'État, je reviens encore sur la raison d'État, on cache la vérité. Pourquoi? Parce qu'il faut cacher la vérité. C'est la raison d'État, point barre. Comment est-ce que vous allez m'expliquer en plus de ce sujet? Mais bon, c'était comme ça. Hein, il y avait un tabou, il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas paniquer la société polynésienne. Mais ce que je voulais dire aussi, autre chose, j'ai oublié du coup, pour en revenir oui, à ce livre-là. C'est-à-dire que les journalistes ont fait leur boulot d'investigation.
Oui.
Mais à l'époque, tous ces documents étaient frappés de secret défense. D'accord, tous ces archives-là.
Tout à fait, oui,
les
tout
archives
à fait.
Secrètes. Donc, du jour au lendemain, au bout de 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, les journalistes ont pu faire des investigations avec chiffres à l'appui. Voilà ce qui en est sorti. Donc c'est la vérité vraie qu'on est sorti.
Ouais.
Et je soupçonne même l'INSERM, ça va ?
Oui, l'INSERM, oui.
Qui a sorti une connerie énorme, sachant que le bouquin allait sortir.
Justement, le co-auteur de ce livre, je parle de Thomas Status, dit « L'enquête de l'INSERM et la nôtre ne s'intéressent pas à la même facette de la question. Nous avons travaillé pour réévaluer les doses à laquelle la population civile aurait été exposée et proposer un autre regard sur les essais nucléaires français en Polynésie, principalement les essais atmosphériques. » Donc on est en train encore, il essaie quand même de dire, voilà, l'INSERM, s'ils n'ont pas donné les mêmes chiffres, c'est parce qu'ils ne se sont pas intéressés. Mais est-ce que, comme tu le dis, est-ce que c'est pas un effet voulu, justement, de ne pas s'intéresser et de ne pas mettre le doigt là où ça aurait pu faire mal ?
Comme par hasard.
Ben oui, hein.
L'INSERM, sa connerie, parce que c'est une grosse connerie, et là, où je rappelle, t'as que le bouquin sort. Faut arrêter aussi, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, de ton appel. Pertinent, oui, encore une fois. Aussi. Et puis, à très bientôt.
À très bientôt. Bye bye.
Dès 9h sur Radio 1, tous les jours. Béni soit-il.